Excellence, chef d'état-major des armées, commandant stratégique, chers invités, mesdames et messieurs.
Et de réunir notre conférence annuelle ici à Oslo à l'invitation des autorités norvégiennes.
Nous sommes honorés de réunir notre conférence annuelle ici à Oslo à l'invitation des autorités norvégiennes. Pour la première fois, à notre table, nous accueillons le nouveau SEMA de la Turquie, le général Metin Gurak. Bienvenue dans notre club et nous nous réjouissons d'entendre vos contributions et avis. Puis, au nom de tout le comité militaire et de notre invité, la Suède, je souhaiterais remercier nos hôtes pour cette merveilleuse bienvenue et votre hospitalité généreuse, la Gästfrihet, dont vous avez fait preuve depuis notre arrivée. Nous souhaiterions exprimer notre gratitude au ministre de la Défense, M. Björn Anil Gram. Nous sommes honorés de vous accueillir parmi nous aujourd'hui, mais également à nos frères d'armes, le SEMA norvégien, le général Christoffersen. Cher Eric, eh bien, merci. Vous et votre équipe et votre état-major accueillez 1000 ans d'expérience militaire à cette table. Les forces armées norvégiennes ont toujours été un ardent contributeur aux missions et opérations de l'OTAN. Et je sais que vous-même, vous êtes un fervent supporter et initiateur de cette coopération entre alliés. Pour donner un exemple, dans l'avis militaire que vous avez publié en mai dernier, l'acronyme OTAN est mentionné 100 fois dans un document de 72 pages. Et je pense que ça donne une impression assez juste du fait que les sphères OTAN et nationales s'entremêlent. Et cela m'amène au thème de la conférence de cette année. Jamais auparavant, les plans de l'OTAN et les plans de défense nationaux n'ont été aussi interreliés. Les plans que les alliés ont agréés à Vilnius auront un impact sur le développement de toutes nos forces armées, ce pour les décennies à venir. Nous prenons des mesures courageuses pour renforcer encore notre posture de dissuasion et de défense. Au centre de tout ceci, il y a la famille des DA de plans, et cela inclut les plans régionaux, qui sont des plans spécifiques d'un point de vue géographique qui permettent de décrire comment nous entendons défendre des endroits clés et pertinents pour notre alliance. Les plans régionaux sont sous-tendus par des besoins de structures de force basées sur la menace objectif qui entrent dans un détail précis des moyens et capacités qui sont nécessaires dans un scénario de crise ou de conflit. Nul besoin de dire que ces plans et ces besoins sont des documents évolutifs. Ils seront actualisés au fur et à mesure que les menaces changent. Entre-temps, c'est avec détermination que nous entendons les traduire en action. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'exécutabilité, et cela inclut davantage de troupes à un plus haut niveau de réactivité, le développement et la construction capacitaire, l'adaptation des structures C2 de l'OTAN, davantage de facilitation, ce qui inclut la logistique, le soutien pays hôtes, la maintenance, la mobilité militaire et la reconstitution et prépositionnement des stocks. Et de manière cruciale, cela implique davantage d'exercices et d'entraînement de défense collective. Parce que les plans OTAN et de défense nationale sont tellement intimement liés qu'il est essentiel que certes nous avancions, mais que également nous nous consultions, et ce dans chaque étape. Je suis particulièrement fière des autorités militaires de l'OTAN qui ont piloté ce processus amenant ces plans. Et je le dis surtout en présence de notre SACEUR, le général Chris Cavoli, et de notre SACTE, le général Philippe Lavigne. Chris, Philippe, votre leadership inspirant et audacieux a joué un rôle essentiel pour faire en sorte que cette alliance soit prête à s'attendre à l'inattendu, aujourd'hui, demain et à n'importe quel moment à l'avenir. Au nom des chefs de la défense, je souhaiterais vous remercier pour tout ce que vous et vos commandements faites. Alors, cette réunion se fait à un moment où l'ordre international fondé sur les règles est gravement sous pression dans le monde, mais également dans nos propres pays. Nos populations sont de plus en plus divisées et les niveaux de menaces augmentent. Ainsi, il est essentiel que nous, le leadership militaire de l'OTAN, continuions à faire en sorte que les hommes et les femmes en uniforme qui servent notre alliance disposent de ce dont ils ont besoin pour protéger ce qui est cher à nos cœurs. Ensemble, nous protégeons bien plus que la sécurité physique. Nous protégeons la liberté, la démocratie et les droits souverains des pays et des peuples à déterminer leur propre destinée. Comme la devise des forces armées norvégiennes, nous combattons pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. For alt vi har og alt vi en norvégien. Et nous le faisons en convergeant, en déterminant des compromis et en avançant comme un seul homme, en mettant le « nous » avant le « moi ». Mais permettez-moi de souligner ici que cela ne signifie pas que le « moi » ne soit pas important. La défense collective commence chez nous. Avoir une défense nationale forte, c'est un élément essentiel à la défense internationale. Dans nos tous pour un, dans notre organisation du tous pour un et un pour tous, il est important que nous travaillions sur le un, mais également sur le tous. Tous les jours, nous sommes admiratifs de nos frères et sœurs en uniforme ukrainien. Ils font la guerre à un niveau sans précédent, sur une friche doctrinaire. Les livres d'histoire le diront. L'Ukraine a transformé la guerre moderne et ils avancent chaque jour. Chaque succès est un pas de plus vers la victoire. Entre-temps, les forces armées russes continuent de perdre de plus en plus de terrain et toute la Russie souffre de l'impact des sanctions économiques et de l'isolation ou de l'isolement diplomatique plutôt. La Russie doit coopérer avec des acteurs non fiables dont elle devient de plus en plus dépendante. Et cependant, les responsables russes pensent encore que cela survivra à la détermination collective du peuple ukrainien et de tous ceux qui les soutiennent. La Russie s'est préparée à la confrontation depuis des années et est prête pour sa population et son économie à endurer des difficultés sans fin afin de régénérer des capacités militaires. De plus, leur machine de la désinformation essaie de semer la discorde et de diviser les démocraties occidentales. Le président Poutine voulait que l'OTAN soit divisée et a tout tenté pour y parvenir. Et pourtant, voilà, nous sommes là et encore plus unis que de par le passé. Unis dans notre croyance que l'état de droit s'applique à tous, que les conflits doivent être résolus dans un tribunal et non pas sur le champ de bataille, et que l'autodétermination est un droit inaliénable. Lors du premier jour de la guerre russe contre l'Ukraine, jusqu'au dernier jour et encore pendant des années après tout cela, nous continuerons d'appuyer l'Ukraine dans son droit légitime à la liberté et à la démocratie. Et nous serons côte à côte afin de protéger tout ce qui est cher à nos cœurs. Mesdames et messieurs, une fois que la Suède nous aura rejoints, nous serons 3,5 millions de frères et sœurs d'armes qui protègent notre merveilleuse alliance. Ensemble, ils voient ce qu'ils n'arrivent pas à voir quand ils sont tout seuls. Ils font ensemble ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. La profession militaire apporte des opportunités immenses, mais cela nécessite aussi des sacrifices immenses. Au nom du comité militaire, je souhaiterais exprimer notre profonde gratitude et notre respect pour les hommes et les femmes qui servent notre alliance. Nous les remercions pour leur courage, leur professionnalisme et leur engagement. Je souhaiterais à présent prendre un instant pour penser aux hommes et aux femmes qui ont consenti au sacrifice ultime pour notre liberté et tous ceux qui sont confrontés aux effets mentaux et physiques de leurs années de service. Nous honorons leur sacrifice, nous respectons leur courage. Veuillez vous lever. Je souhaiterais à présent donner la parole au général Christopherson pour ses propos d'ouverture. Eric, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Rob, pour ces propos tout à fait sages. C'est à nouveau un réel plaisir pour moi de vous accueillir tous ici à Oslo, en Norvège. Nous avons commencé hier et aujourd'hui, voilà, nous sommes à cette réunion de la conférence du comité militaire ici à Holmenkollen. Je suis très heureux d'accueillir également mes voisins, la Finlande et la Suède ici. La Finlande, comme notre dernier membre, et la Suède, qui très prochainement deviendra membre. L'intégration de tous les pays nordiques dans l'alliance de l'OTAN est une bonne chose pour la Norvège, c'est bien pour les pays scandinaves, mais c'est bien également pour l'OTAN. Dans les prochaines années, nous allons trouver de nouvelles manières d'assurer la défense et la dissuasion sur le flanc nord de l'OTAN, et ce, tous ensemble. Et nous nous réunions ici à un moment de guerre. Nos amis ukrainiens se battent pour leur patrie, pour leur liberté, pour la démocratie et pour la paix. Des valeurs que nous partageons tous et qui sont très importantes pour nous. En Norvège, on dit plus jamais le 9 avril. La Norvège a été attaquée par les forces de Hitler le 9 avril 1940. C'est une attaque qui nous a pris par surprise et on s'est promis depuis d'en tirer les enseignements, notamment deux enseignements majeurs. Tout d'abord, il ne faut jamais penser que la paix, la liberté et la démocratie sont des acquis. Et deuxièmement, nous avons besoin d'amis, d'alliés pour pouvoir lutter en retour et garantir la paix. Les alliés, c'est bien plus que des amis. C'est quelque chose qui est évident au sein de l'OTAN. L'OTAN est la pierre angulaire des politiques de sécurité régionale et les fondations mêmes sur lesquelles nous construisons nos forces armées. Nous sommes très reconnaissants de faire partie de cette alliance militaire la plus forte dans le monde. Et l'OTAN, comme Rob l'a dit, est plus unie que jamais. Notre voisin, la Russie, et le président Poutine voulaient essayer de mettre un coin dans notre alliance en attaquant l'Ukraine et l'ordre international fondé sur les règles. Il est finalement parvenu à exactement l'inverse. La résistance de l'Ukraine et sa volonté et sa capacité à lutter en retour nous a tous impressionnés. Et en Norvège, on a toujours mis l'accent sur l'importance de la volonté d'une population à se défendre elle-même. Et c'est exactement ce que nous constatons en Ukraine et ce que fait le peuple ukrainien aujourd'hui. Et nous sommes aux côtés de nos amis ukrainiens. Lors des deux dernières années, le comité militaire a joué un rôle très important dans la réaction militaire de l'OTAN à la suite de ces attaques russes en Ukraine. Et je souhaiterais sincèrement remercier l'amiral Rob Bauer, le président du comité militaire de l'OTAN. Rob, votre leadership a permis de réunir les chefs des armées pour trouver les meilleures options militaires, les meilleures réponses à apporter à nos responsables politiques tels qu'ils nous l'avaient demandé. Merci, une nouvelle fois, bienvenue. Merci beaucoup, Eric. Et à présent, je souhaiterais passer la parole au ministre de la Défense, Bjørn Arild Gram. Bjørn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers amis, chères familles OTAN. Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue à Norvège, à Oslo et à Holmenkollen. La ville d'Oslo a une histoire qui va plus de 1000 ans en arrière, mais c'est une ville qui n'a pas toujours été aussi pacifique qu'aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres capitales européennes, nous avons eu notre tribu de guerre et d'atrocité. La ville a été totalement brûlée au XVIe siècle, et ce, par ses propres citoyens et des Suédois qui nous attaquaient pendant la guerre nordique des 7 ans. Nous avons arrêté de brûler nos villes quand maintenant les Suèdes nous rendent visite. Et même maintenant, ils sont sur le point de devenir des alliés à l'OTAN. Et ça, nous en sommes d'ailleurs très contents, cela soit dit en passant. Je souhaiterais me concentrer sur 4 sujets dans mes propos. Tout d'abord, le rôle clé de l'OTAN dans le Grand Nord. Puis, le partage du fardeau et la nécessité de rester engagé à la transformation de l'OTAN. Puis, l'Ukraine. Et enfin, l'importance de garantir la pleine adhésion de la Suède. Alors, tout d'abord, l'OTAN dans le Nord. Alors, l'OTAN est une pierre angulaire de notre politique sécuritaire en Norvège aujourd'hui, comme cela est le cas depuis le tout début. Et la Norvège prend sa part active pour façonner la stratégie de l'OTAN et dans toute l'Alliance. la pertinence du Grand Nord augmente parce que c'est là que se joue aussi la compétition mondiale. Une grosse partie des capacités nucléaires russes se trouve dans la péninsule de Kola et ainsi, ces capacités ont augmenté et ce, avec le déclin aussi des capacités conventionnelles de la Russie. Toutes ces ressources dans le Grand Nord sont importantes pour nous tous et pas seulement pour la Norvège et la Russie. Alors, nous partageons une responsabilité commune d'exploiter, de préserver ces ressources aujourd'hui, mais également pour les générations à venir. Alors, afin de réaliser cela, et le plus important, c'est la sécurité et la prévisibilité. L'OTAN reste le principal prestataire de sécurité pour la paix et la sécurité dans la zone. Notre posture de dissuasion dans la région sera de plus en plus forte alors que nous accueillons la Finlande et la Suède dans notre alliance. Les alliés de la région ont une responsabilité toute particulière pour développer cette dissuasion de l'OTAN dans le Grand Nord, alors en termes de contribution de troupes, mais également pour calibrer la posture. La posture de dissuasion s'appuie certes sur les lignes maritimes de communication, mais également sur les lignes de communication stratégiques. Ça inclut l'infrastructure, l'espace, mais également sur les fonds marins. Un tel effort est une énorme entreprise pour l'Alliance dans les moments à venir et ça doit être pris avec le sérieux nécessaire. Je suis heureux de constater que l'OTAN est vraiment à l'avant-plan en ce sens et une bonne étape, c'était le suivi positif assuré à la suite de l'initiative de la Norvège et de l'Allemagne pour la protection des infrastructures sous-marines. Le développement des plans régionaux avance bien et je souhaiterais exprimer toute ma gratitude au SACEUR pour son leadership sur ce dossier. Tous les pays nordiques à l'OTAN ainsi permettront de récolter les bénéfices de notre bonne coopération existante et ce, en affiliant tous les pays au GFC Norfolk. Alors, c'est une recommandation qui s'appuie sur un avis militaire sain de tous les SEMA scandinaves. Entre les pays scandinaves, il y a un dialogue intime sur la manière de développer la coopération défense pour renforcer, certes, la défense de notre région, mais également pour servir toute la sécurité de l'Alliance dans son ensemble. Le JFC de Norfolk est sur le point de devenir un état-major qui puisse accepter cette dimension vers le nord. Nous devons renforcer nos efforts pour mettre en place les conditions qui le permettront plutôt tôt que tard. La Norvège va assurer sa part pour faire en sorte que le JFC de Norfolk respecte les besoins pour avoir ses plans régionaux et le SACEUR devra prendre des décisions au bon moment. Sur la question du partage du fardeau, avoir les bonnes ressources est essentiel pour notre modernisation de la défense collective. La Norvège a engagé quasi toute sa structure de force lors de la conférence d'identification des forces. Nous appuyons aussi la possibilité d'avoir des fonds communs pour pouvoir couvrir de nouveaux besoins. Et le gouvernement norvégien reconnaît l'importance du partage du fardeau au sein de l'Alliance. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à maintenir un minimum de 2% de notre PIB, et ce, à des fins de dépenses de défense. Et nous allons présenter un plan détaillé à l'OTAN après un nouveau plan de défense à long terme approuvé par le Parlement l'année prochaine. Et puis après, il y a la question de l'Ukraine. Nous, en tant qu'alliés, nous sommes solidement ancrés dans le soutien à l'Ukraine contre l'agression russe. Cette invasion était une invasion, finalement, qui est importante pour la sécurité européenne et ukrainienne. Nous appuyons le fait que la défense ukrainienne reste solide et nous allons continuer d'assurer un soutien militaire et civil. Il y a un accord politique en Norvège et ce entre tous les partis politiques sur un programme de soutien multiannuel d'environ 7,5 milliards d'euros et ce sur 5 ans. Cela se fera par le biais d'un programme de soutien à l'Ukraine. L'OTAN doit continuer d'être aux côtés de l'Ukraine et de s'opposer à cette agression russe, quelle qu'en soit la forme. C'est la raison pour laquelle la Norvège a décidé d'un engagement à long terme pour aider à financer le programme CAP de l'OTAN également. Et enfin, la Suède, vous savez, pour la Suède, la ville ne brûle pas. On doit garantir la pleine adhésion de votre pays. Je crois que le moment est venu, on a suffisamment attendu. C'est essentiel pour la sécurité de votre pays, la sécurité de nos pays scandinaves, et ça permettra de renforcer la sécurité de l'OTAN dans son ensemble. Avec ces pays nordiques unis à l'OTAN, la posture de dissuasion de l'Alliance permettra de servir toute l'Europe. La Norvège est prête à fournir son soutien à nos voisins du Nord, sous une forme ou une autre, pour être sûr que cette transition soit aussi facile que possible. Et avec nos collègues du Nord, nous sommes prêts à préparer un plan de défense cohérent pour la partie nord de l'Europe en s'appuyant fermement dans le cadre OTAN. Eh bien, chers collègues, je vous souhaite le meilleur dans vos débats fructueux aujourd'hui. Une nouvelle fois, je vous souhaite la bienvenue ici à Oslo, en Norvège. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces propos inspirants. Et c'est un honneur de vous accueillir lors de cette ouverture officielle. Je souhaiterais remercier les médias de leur présence pour cette ouverture officielle de notre conférence. À la fin de la conférence d'aujourd'hui, le général Christopherson et moi-même vous parlerons sur l'issue de nos discussions. Monsieur le ministre Graham, général Christopherson, je vais vous accompagner vers la porte avant que nous entamions notre première séance de la journée.